savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, je pense. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde.
Marcello, come here.
Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Bonjour et bienvenue dans Tous les cinémas du monde, une émission cette semaine qui vous emmène au Soudan. Oui, au Soudan où quatre papilles idéalistes sillonnent les routes du pays pour projeter des films en louvoyant avec la censure et les interdits des imams. Bonjour Sophie.
Bonjour Elisabeth, bonjour à toutes et à tous.
Nous parlerons aussi d'un mélo tropical dans le Brésil des années 50 et des fantômes qui hantent le nouveau film de Pascal Bonitzer, Les Envoûtés. Enfin, nous partirons à Bollywood. Bollywood qui s'attache à restaurer, il était temps, son patrimoine cinématographique.
Tous les cinémas du monde sur RFI avec Unifrance Film, l'actualité du cinéma français à l'international. www.unifrance.org.
Mais avant, nous partons pour notre traditionnel tour du monde du cinéma. Sophie, premier stop, Marrakech.
Et oui, la ville marocaine où le jury du 18e Festival International, un jury présidé par Tilda Swinton, a sacré une œuvre colombienne, Valley of Souls, de Nicolas Rincón Gil.
Franchement, quand on fait des films, on ne s'attend pas au prix, on s'attend juste à pouvoir les montrer et à que les publics puissent rencontrer et avoir des émotions qu'on met ensemble. Les prix, ça fait rayonner plus les films, mais c'est surtout ce qui est important, c'est rencontrer le public avec les films.
Voilà, le réalisateur colombien Nicolas Rincón Gil, qui était heureux sur le tapis rouge de Marrakech, puisqu'il a remporté la plus haute distinction de ce festival avec ce film, Valley of Souls, l'histoire d'un père qui a perdu deux fils tués par l'armée et qui se met à la recherche de leur corps perdu dans un fleuve. Donc un film sur la peur, sur le deuil, un plaidoyer pour la paix dans un pays, la Colombie, meurtri par la guerre civile.
Alors aux États-Unis, à Hollywood, la saison des prix est ouverte. On attend bien sûr les nominations des Oscars. Mais en attendant, justement, eh bien, on a depuis lundi les nominations des Golden Globes. Donc ce sont, Sophie, les prix décernés par la presse étrangère à Hollywood.
Oui, en général, c'est toujours un peu l'antichambre des Oscars, les Golden Globes. Et c'est un film Netflix qui apparaît favori.
What I love about Nicole, she is a mother who plays, really plays.
What I love about Charlie,
he loves being a dad. He loves all the things you're supposed to hate, like waking up at night.
She knows when to push me and when to leave me alone.
He never lets other people keep him from what he wants to do.
Dad, you're too far.
Voilà, c'est ce film favori des Golden Globes, c'est Marriage Story de l'américain Noah Baumbach. C'est l'histoire d'un divorce plus que d'un mariage avec Adam Driver et Scarlett Johansson qui se déchirent pour la garde de leur fils. Ce film, produit et diffusé par Netflix, peut concourir aux Golden Globes car il est sorti en salle à New York et à Los Angeles. Et même si ce n'est que pendant un mois, eh bien, cela suffit pour que Marriage Story puisse concourir au prix. Il est nommé dans 6 catégories, dont meilleur film, meilleur acteur et meilleure actrice.
En France, des nouvelles, Sophie, de Catherine Deneuve.
Oui, Catherine Deneuve, qui a été victime d'un accident visiblement mineur, mais néanmoins réel, un accident cérébral, lors du tournage du film De son vivant d'Emmanuel Berco. Enfin, elle est sortie d'hôpital, Catherine Deneuve. Elle est rentrée chez elle et elle se repose, nous dit le quotidien Le Parisien. Et le tournage du film devrait reprendre en début d'année prochaine.
Et puis nous partons en Inde. Alors l'Inde qui commençait est la deuxième industrie cinématographique mondiale derrière Hollywood. Alors pourtant on dit que 70% de cette production prolifique aurait été perdue en cause le peu d'attention portée au stockage des films. Et puis le climat tropical qui accélère, dit-on, la décomposition des composants chimiques de la pellicule. Nous partons donc dans la ville d'Hyderabad où l'ONG Film Heritage Foundation organisé cette semaine un festival de restauration du cinéma indien et entre autres de Bollywood. C'est un reportage de notre envoyé spécial à Hyderabad, Combastin.
Évoluant parmi les couloirs moites de l'ancien laboratoire cinématographique Prasad, Mariana Tsangtis ouvre le couvercle en métal recouvert de poussière d'une des bobines qui jonchent le sol. Spécialiste de la restauration de films à Bologne, elle doit jauger de l'état de la pellicule de ce film indien.
L'état c'est critique, c'est très humide. Je ne suis pas sûre si l'image c'est encore là. on doit les ouvrir avec beaucoup de patience, beaucoup de temps et probablement faire un traitement de ces champs. Mais peut-être qu'il y a quelque chose encore à sauver. On espère.
Humidité, chaleur, exposition lumineuse, autant de facteurs qui conduisent les pellicules à une mort certaine en l'absence de stockage adéquat. Avec des élèves venus de toute l'Inde et des professeurs du monde entier, Mariana participe au festival de restauration du cinéma indien, un événement qui répond à la menace immense auxquelles font face ces pellicules oubliées, explique son fondateur Shivendra Singh.
Mumbai, Bombay, Calcutta, imaginez, l'Inde compte 37 langues, nous produisons plus de 2000 films par an et pour l'instant nous avons perdu 70% de notre patrimoine cinématographique. Nous sommes à un moment charnière. Depuis que nous avons lancé la Film Heritage Foundation en 2014, le mouvement pour la restauration des films a commencé en Inde. Avant cela, on ne faisait rien pour préserver les pellicules.
Le festival permet à ses participants d'accéder à une semaine de conférences et de formations à la restauration et l'archivage cinématographique. Cette année, il a lieu dans les studios Annapurna, dirigés par Nagarjuna Akineni, immense star du cinéma indien, comme l'était son père.
Un jour, j'ai voulu retrouver les grands classiques de mon père et de certains de mes films, et j'ai découvert que la plupart des pellicules avaient été détruites par le temps. Lorsque j'ai rencontré la Film Heritage Foundation, je me suis d'abord dit que j'avais encore tout au format numérique. Mais non, car même le format numérique doit être conservé quelque part. Et il n'a jamais la qualité des pellicules originales, qui sont de 24 000 pixels. C'est ainsi que j'ai ouvert les yeux.
Même s'il est tard pour sauver la mémoire du cinéma indien, il n'est pas trop tard. Grâce au travail de sa fondation, Shivendra Singh espère accélérer le mouvement dans les années qui viennent.
In 5 years, with the help of the International Federation of Film Archives, we would have our own people to train. We want to build the first moving image conservation center, also a museum, which is in the best practices of conservation.
Voilà, c'était un reportage sur la restauration des grands classiques du cinéma indien. Un reportage à Hyderabad, signé Comme Bastin. En salle, cette semaine, Sophie, du doc et de la fiction, du cis et du trans, de la France au Brésil, en passant par l'Alaska. C'est une semaine voyageuse que nous proposent les salles de cinéma ce mercredi. Une femme sur les routes dans les étendues sauvages du Canada, c'est Liliane d'Andrea Sorvat. Un duo père-fille avec Benoît Magimel dans le rôle du père, bouleversé. Quand son fils lui apprend qu'il veut devenir femme, c'est Lola vers la mer de Laurent Micheli. Un urgentiste au bout du rouleau, sujet d'actualité, s'il en fut, c'est Docteur de Tristan Seguela avec Michel Blanc. Et puis un mélo, un vrai, dans le Rio des années 50, ça s'appelle La vie invisible d'Eurydice Gusmão. Vous l'avez vu, Sophie. Alors, est-ce que ce mélo tient ses promesses?
C'est tout à fait un mélo, dans tous les sens du terme. C'est l'histoire de deux sœurs issues de la classe moyenne, un père boulanger, mère au foyer, dans le Brésil des années 50. L'aînée, Guida, s'éprend à 20 ans d'un marin avec qui elle embarque pour l'Europe avant de revenir abandonnée et enceinte. Son père la chasse du foyer sans en parler à la cadette, Eurydice. Eurydice, dont les rêves de devenir pianiste professionnelle vont se fracasser sur l'implacable réalité d'une société patriarcale, très conservatrice. Eurydice qui vivra sans le savoir et tout en la recherchant désespérément, non loin de sa sœur.
Vente! Papa, eu cometi um erro.
Que é isso?
Cadê Eurydice? Eu quero falar com a minha irmã.
Está na Europa, na Áustria. Entrou na escola com que sempre sonhou. Já não és minha filha.
Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde ir!
Sai pelas traseiras.
Karim Aynouz adapte un roman de Marta Battaglia. Ce réalisateur de 53 ans a trouvé dans cette histoire l'écho de sa propre vie. Lui qui fut élevé par une mère célibataire et il voulait absolument parler de la relation entre deux sœurs.
L'idée de sororité, elle était centrale dans les romans, elle est aussi centrale dans le film. Sororité entre ces deux sœurs qui sont séparées de manière très brutale et très toxique, impardonnable. C'est l'idée que si ces deux sœurs, elles auraient resté ensemble, peut-être elles auraient réalisé tous ces rêves, peut-être elles auraient été beaucoup plus fortes. Mais moi, ça m'intéressait beaucoup de parler aussi de la solidarité entre des hommes et comment la solidarité entre des hommes peut être tellement, tellement nocive pas pour, simplement pour des femmes, mais pour le monde, quoi.
Alors, on parle de domination masculine, Sophie, dans le Brésil des années 50, c'est-à-dire avant la dictature.
Oui, hein, le choix de cette période est important aux yeux de Karim Aenouz, qui raconte... Donc non seulement on l'a compris, le destin brisé de deux sœurs, mais aussi le fonctionnement de la société brésilienne, les mariages imposés, la vie de ces femmes vouées à faire tourner leur foyer, à taire leurs aspirations pour élever des enfants qu'elles n'avaient pas forcément désirés.
Les années 50, pour moi, c'était vraiment les derniers moments où les luttes du féminisme, les batailles du féminisme ont abouti beaucoup, beaucoup de choses. C'est-à-dire les années 50, c'était les années où il n'y avait pas de divorce, l'avortement... C'était la décennie où, au Brésil, c'était que 10% des femmes travailleurs de la maison. Et c'est la décennie juste avant où tout a commencé à changer. Alors, pour moi, c'était important de construire ces contrastes entre ce qu'il y avait à cette époque et ce qu'il y a maintenant. Et comment les femmes ont changé tellement de cette époque jusqu'à maintenant. Et comment les hommes, ils n'ont pas changé. La dictature, c'est venu après, c'est venu dans les années 60. Mais pour moi, c'était vraiment important de regarder ces dernières décennies où tous les valeurs de la famille traditionnelle étaient très, très, très en évidence.
Et ce que raconte Karim Aenouz, en fait, c'est l'histoire de deux destins brisés, en fait. C'est ça, deux sœurs séparées par la vie.
C'est effectivement un mélodrame tropical, hein, pour lequel Karim Aenouz s'est inspiré des films du maître américain du genre, hein, Douglas Sirk, mais aussi des telenovelas brésiliennes des années 70. Il fait le choix d'une esthétique marquée par une très belle photographie avec des couleurs chatoyantes, une musique très présente, des sentiments, des situations exacerbées. Et pourtant, en même temps, Karim Aenouz ne force pas le pathos et ne fait pas un film tire-larme.
Quand vous faites un mélodrame, il faut y aller. J'avais tellement envie de faire un mélodrame depuis tellement d'années que j'ai pris le risque. C'est pas simplement la couleur, je crois que c'est la couleur, c'est le jeu, c'est la musique, tout est un peu trop. Il y a une espèce d'excès baroque dans les films, une espèce d'excès de beauté, disons. Mais moi, je trouve que quand on raconte une histoire qui est tellement cruelle, comme l'histoire de Guida, l'histoire d'Euritz, c'est important pour moi d'avoir une espèce de façade qui est un peu le contraire, pour qu'on puisse avoir vraiment cette espèce de friction entre une histoire qui semble colorée, qui semble du passé, où il y a beaucoup de musique qui est un peu excessive, mais qui raconte quand même des choses très dures.
Sorti fin novembre dernier au Brésil, La vie invisible d'Orydis Gusmão a reçu un bon accueil public et populaire. Le film, on l'a compris, hein, fait quand même écho à la politique actuelle, au retour des valeurs conservatrices. Karim Aenouz, très engagé, n'a pas de mots assez durs contre la politique de Jair Bolsonaro.
C'est une tragédie parce que c'est pas l'extrême droite, c'est le fascisme. C'est beaucoup plus grave que ça. Et j'avoue que quand j'ai commencé à faire les films, c'était pas un film qui voulait être une métaphore du patriarcat et de la toxicité du patriarcat. Mais vous savez, le cinéma, il a cette espèce de pouvoir où les choses s'agrègent. Où il a une espèce de champ magnétique où les choses viennent. Et évidemment, le plus que je faisais les films, le plus c'était clair qu'il fallait être un film où on parle de la toxicité du masculin, du machisme, où on parle de la neutralisation d'une certaine violence qui est là, mais qu'on n'a pas comment l'appeler.
Voilà, alors cette belle fresque féministe, hein, le nouveau film de Karim Aenouz, a été choisi par le Brésil pour le représenter dans la course à l'Oscar du meilleur film étranger.
T'as besoin de fric ?
J'ai une grosse facture d'électricité.
Et si je te confiais le récit du mois ? Tu t'en sens capable ? Il s'appelle Simon. Sa mère est morte il y a 6 mois, et juste au moment où c'est arrivé.
Ce n'est exactement où vous êtes là.
Pigiste pour un magazine féminin, Colline part dans les montagnes pyrénéennes à la rencontre de Simon, un peintre qui dit être en rapport avec les fantômes et dont elle doit faire le portrait. Ça s'appelle Elisabeth Les Envoûtés et c'est le nouveau film de Pascal Bonitzer.
Je connais quelqu'un à qui la même chose est arrivée. C'est même pour ça que je suis là. Mais qu'est-ce qui t'a fait peur ?
Je le vois.
Tu vois quoi ?
Mon père.
La bande-annonce des Envoûtés de Pascal Bonitzer. Alors la jeune journaliste Colline, elle va tomber follement amoureuse du peintre Simon et puis follement jalouse en comprenant qu'il y a une autre femme dans la vie de Simon et que cette femme est en fait possiblement une morte. Alors le film s'inspire librement d'une nouvelle de Henry James. C'est une valse, hein, à 3 temps entre l'amour, la vie et la mort. Un trio amoureux qui rappelle énormément la chambre verte de Truffaut, hein, dans cette espèce de combinatoire, un homme, une femme et leur fantôme. On écoute le réalisateur des Envoûtés, Pascal Bonitzer.
Bah, c'est un résumé abrupt, mais enfin, finalement assez fidèle. C'est un trio, effectivement. Et dans ce trio, effectivement, il y a une morte. Alors, est-ce que c'est un fantôme ou est-ce que ce fantôme est dans la tête de l'héroïne? C'est une des questions qui se posent. Mais enfin, il y a ce personnage donc qui s'appelle Hazard, qui est joué par Annabelle Lopez, et qui, à un moment, disparaît.
Et dont on ne sait pas si c'est une vivante ou une morte qui apparaît.
Oui.
À Nicolas Duvauchel, votre héros.
Oui. C'est une des questions qui sont posées par le film. Mmh. Il y a effectivement quelques énigmes, disons, dont je laisse la réponse un peu au spectateur.
Pascal Bonitzer, sur l'échelle de 1 à 8, entre rationalité pure et puis croyance au monde des esprits, vous vous situez où?
Écoutez...
Vous y croyez aux esprits?
Pas vraiment. Mais je crois qu'il peut y avoir des... En fait, je pense que ce qui m'a séduit aussi dans la nouvelle de James, quand je l'ai lue, c'est d'une certaine façon son réalisme psychologique. C'est-à-dire le fait que quelqu'un puisse avoir l'apparition d'une personne qui lui est chère au moment de sa mort, ça m'a paru être quelque chose d'un peu extraordinaire, mais pas complètement absurde. J'en ai eu la confirmation après avoir fait le film, c'est-à-dire quand j'ai commencé à le montrer. À la fin de plusieurs séances, des personnes sont venues me trouver pour me dire « j'ai vécu quelque chose comme ce qui est arrivé à vos personnages ». Quelquefois avec beaucoup d'émotion, d'ailleurs.
Oui, parce que c'est un film de fantômes, mais en même temps, c'est un film qui parle de la difficulté de se réinventer après un amour perdu, de la difficulté à faire renaître l'amour. Est-ce que vous diriez que c'est votre film le plus romantique à ce jour?
Disons que c'est le film où j'ai voulu me confronter le plus directement à l'émotion. Et avec des interprètes, avec Sarah Giraudot et Nicolas Duvauchel, qui font passer énormément d'émotions, justement.
Et le hasard, comme toujours, est au cœur de ce film. Vous savez pourquoi?
Parce qu'il a joué, je pense, un grand rôle dans ma vie. Et je pense que le hasard est un générateur de fiction. J'ai l'impression que quand il arrive vraiment quelque chose, la chance a joué, ou la malchance, si on veut, mais la chance ou la malchance, c'est le hasard. C'est pas de l'ordre du rationnel, c'est pas de l'ordre de la volonté, c'est quelque chose qui est en dehors de votre volonté. Et moi, par exemple, j'ai toujours eu le sentiment que la volonté chez moi était très faible et que tout ce qui m'était arrivé, tout ce que j'avais fait, je l'avais fait par beaucoup par chance.
Le film commence. J'étais d'ailleurs par une rencontre fortuite. Vous êtes sensible,
oui,
à cette magie.
Tout à fait, oui. Oui. Quand j'étais d'ailleurs adolescent, j'étais très féru de surréalisme et de la notion de hasard objectif qui est au cœur de la doctrine surréaliste.
Vous, Pascal Bonitzer, dans le film, vous sentez plutôt Sarah Giraudot ou plutôt Nicolas Duvauchel?
Je me sens un peu les deux. Ça, c'est le propre des auteurs.
Chacun a sa propre ligne de fuite.
Je dirais, si on veut, plus Sarah Giraudot que Nicolas Duvauchel. Je pourrais tout à fait dire que Colline, c'est moi. Même de par son parcours, d'ailleurs, puisque, au fond, elle est rédactrice dans un magazine, comme, après tout, moi, j'ai été rédacteur d'une revue et cahier du cinéma autrefois. En tout cas, je me suis aperçu que je pouvais adapter la nouvelle à partir du moment où j'ai réussi à créer une identification entre moi et ce personnage.
Pascal Bonitzer, sur son film Les Envoûtés, on se retrouve dans quelques minutes avec notre invité, le Soudanais Souhaib Gasmelbari, pour évoquer d'autres fantômes, ceux du cinéma soudanais. Et en attendant, voilà, on attend Souhaib Gasmelbari avec la folk suave du duo suédois First Aid Kit.
I'm scared of dying, but I'm scared of living too fast, too slow. Regret, remorse. hold on. No, no, I gotta go. There's no starting over, no new beginnings. Time raises on. Just gotta keep on keeping on. Gotta keep on going, looking straight out on the road. Can't worry about what's behind you, what's coming for you further up the road. Try not to hold on to what is gone. I try to do right what is wrong. I try to keep on keeping on. Yeah, I just keep on keeping on. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in a town to be free. Be it for reason, be it for love, I won't take the easy road. Ooh, 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 ooh. I've woken up in a hotel room. My worries as big as the moon. Having no idea what or where I am. Something good comes with the bad. A song's never just sad. There's hope, there's a silver line. Show me my silver line. Show me my silver line. I hear a voice call, calling out for me. These shackles I made in the town to be free.
Bien sûr, RFI dans tous les cinémas du monde avec Sophie Torlotin et Elisabeth Le Quéré. Et notre invité qui vient de nous rejoindre, Souhaib Ghazmelbari. Bonjour.
Bonjour.
Mercredi prochain, votre film Parler des arbres, Talking About Trees, sortira en salle. Donc c'est un film qui a été multi-récompensé. Hein. Entre autres, il a reçu le prix du meilleur documentaire au Festival de Berlin. Il a reçu un Tanit d'or aux journées cinématographiques de Carthage. Talking About Trees donc raconte l'histoire de quatre amis, quatre cinéastes, ou plutôt ex-cinéastes, devrais-je dire, mais on aura l'occasion d'en reparler, qui cherchent à ranimer donc la flamme du 7e art au Soudan. Ils ne sont plus tout jeunes, ils ont entre 70, 80 ans, plus. Alors, vous, les auditeurs de RFI ne peuvent pas vous voir, Souhaib Ghazmelbari, mais vous, vous avez la quarantaine. Comment vous avez pu les rencontrer?
Je les ai rencontrés, j'ai d'abord découvert leurs écritures.
Leurs films?
Et leurs films. La découverte de leurs films, en fait, ça a pris longtemps, parce que leurs films, ils n'étaient pas accessibles à ma génération. Mais j'avais découvert quelques films d'Ibrahim Shaddad, qui est l'aîné du groupe, qui a 85 ans. Et les films des autres, je les ai vus seulement quand je suis rentré au Soudan, et j'avais un projet pour tourner un film de fiction au Soudan, qui n'a pas marché. Le projet a complètement échoué. Et là, j'ai appris qu'ils étaient rentrés d'exil, qu'ils essayaient de faire revivre leur groupe. Et ils organisaient des projections de films dans les villages à côté de Khartoum. Et ils m'ont invité pour les accompagner dans une projection. Et c'est là où l'idée de film est née, en fait.
Et la première projection, ça ressemblait à quoi? C'était loin de Khartoum?
Non, c'était à 40 km peut-être de Khartoum, dans un village qui s'appelle Jebel Aulia. Et en fait, cette projection m'a inspiré le film parce qu'il était vraiment particulier. On est arrivé, ils ont installé leur écran qui est un écran en tissu. Et il y a eu une tempête de sable, une petite tempête de sable, comme ça arrive souvent au Soudan. Et moi, j'ai cru qu'ils allaient arrêter la projection, mais en fait, ils ont continué. Et deux d'entre eux, Ibrahim et Manar, ils sont allés derrière l'écran. Ils ont attaché les bâtons qui tenaient l'écran contre leurs chaises, ils sont assis là. Et c'était vraiment une scène épique. le vent gonflait et dégonflait l'écran, l'image, elle sortait, revenait dans l'écran, et où il rigolait nerveusement, mais il rigolait.
Et ça, les gens sont pas partis.
Non, les gens, ils sont vraiment restés, personne n'est parti. Et pour moi, c'était vraiment là, à ce moment-là, c'était la nécessité de faire ce film-là. Je sentais comme une nécessité vitale, vraiment, ouais, de faire ce film.
C'est ce qu'on appelle la magie du cinéma.
Voilà, c'était...
Et qu'est-ce qu'ils projetaient comme film ?
Je me rappelle pas exactement ce jour-là, mais oui, ils ont l'habitude de beaucoup de Charlie Chaplin, parce que ça amène toujours les gens. Mais ils projettent toutes sortes de films.
Et les habitants n'ont jamais vu de film, en fait, avant qu'ils arrivent.
Je pense à la télé, peut-être, mais c'était une expérience en première, vraiment. Déjà, moi qui a vécu à la capitale, j'avais jamais vu de projection au Soudan dans mon enfance, même. Jusqu'au que j'ai quitté le Soudan, je n'avais jamais assisté à une projection.
ودي حارتكم ودي سينماتكم
هلموا هلموا هذا فيلمكم الذي اخترتوه عشان ما فاش فيكم يجيبوا لا فيلم كعب
سهيب جسم البارج on vous voit rire hein. Qu'est-ce qui se dit dans cet extrait de votre film?
C'est surtout la dernière partie en fait d'Ibrahim où il dit allez-y, voici le film que vous avez choisi et comme ça personne ne viendra se plaindre si le film est mauvais. Je trouve ça une façon d'appeler les gens pour venir au cinéma qui est assez drôle.
Donc il y a un enjeu dans votre film, c'est que ces quatre amis, ces quatre cinéastes cherchent à restaurer en fait un des cinémas de Khartoum pour y projeter un film. Alors y arriveront-ils ? Il y a un petit enjeu. Il y a donc eu, oui, il y a encore des salles de cinéma à Khartoum, mais depuis une trentaine d'années, enfin jusqu'à une date récente, on ne pouvait plus du tout y projeter de films, c'était interdit.
C'est encore, oui, c'est des bâtiments abandonnés, en fait. Il y a des grandes salles. Cette salle où se passe une partie de l'histoire du film, Révolution, c'est une salle qui pouvait tenir peut-être 3000 spectateurs. Donc, c'est des grandes salles, mais elles sont restées abandonnées. Le cinéma a été assassiné, en fait, en 89 au Soudan, au moment de l'arrivée de Omar al-Bashir au pouvoir. Et elles sont restées pour nous, pour ma génération. Nous, on savait que c'était des cinémas. On n'était jamais entrés avant. Pour moi, la première fois d'entrer dans un cinéma au Soudan, c'était pour le film, avec les quatre.
Il y a un interdit religieux, donc, sur les images, hein, puisque c'est la charia.
Non, ça a jamais été dit comme ça, en fait, part
du régime. Justement, c'est dit comment? Parce qu'on se demande, justement, comment dans un régime où tout le monde leur met des bâtons dans les roues, ouais, parce que c'est un régime islamique, ils arrivent quand même à projeter des films.
En fait, le régime n'a jamais dit ses raisons. Ce film, en fait, c'était aussi un questionnement sur le pourquoi. Parce qu'ils n'ont jamais prononcé ça, que le cinéma était interdit. Mais sauf que... Le jour de coup d'État, il y a un couvre-feu qui a été imposé.
Alors, on est en 1989. Et donc, c'est l'arrivée au pouvoir d'Omar al-Bashir.
Automatiquement, tuer immédiatement, en fait, les salles de cinéma, qui sont des cinémas plein air, qui projettent des films le soir seulement. Donc, le couvre-feu, il commençait à 7h du soir. Tout le monde devait rester chez soi. Donc, ça, systématiquement, tuer les films. Ils ont combattu, le régime a combattu toute image qui n'est pas l'image de propagande qu'ils voulaient. Ils ont cherché à effacer complètement la mémoire visuelle et la remplacer par les images de propagande. Ils avaient un projet de militarisation de la société, donc c'était l'armée tout le temps. Mais le régime n'a jamais dit que c'était un interdit religieux. Là, ils sont restés très hypocrites. Et avec le temps, en fait... C'était un régime assez particulier, parce qu'on le limite juste à un régime islamiste, mais en fait, pour moi, c'est un régime... l'islamisme au Soudan, c'est notre extrême droite, en fait. C'est un extrême droite, comme quand il a le plein pouvoir, il devient quelque chose d'horrible et son rapport à l'image, c'est le rapport de tous les régimes fascistes, en fait, qu'ils veulent dominer, imposer. Et avec le temps, en fait, ce régime a changé beaucoup. Il est devenu assez un régime à la fois islamiste, ultra-libéral. Il cherche à avoir une légitimité à l'international, des liens économiques. Donc, il changeait sa peau chaque fois. Donc, on ne savait pas.
D'accord. Ouais. Et donc, eux jouent, effectivement, j'imagine, de ce non-dit avec le pouvoir. Mais j'aimerais bien savoir ce qui leur est arrivé concrètement en 1989. C'est-à-dire qu'eux sont cinéastes, vos protagonistes, hein, Ibrahim, Manar, Souleymane et Al-Tayeb. Donc, ils sont cinéastes, un peu cinéastes officiels, dirait-on. Qu'est-ce qui leur arrive après le coup d'État ?
Après le coup d'État, ils ont été tous virés de leur travail. À l'époque, il y avait en politique, en fait, ils appelaient ça le licenciement pour le bien public. Et des millions de Soudanais, ils ont été licenciés. C'était pour des raisons politiques. Tous ceux qui soutenaient pas le régime, ils étaient licenciés. Donc les quatre, ils ont été licenciés. Souleymane et Ibrahim, ils sont allés en prison. Ils ont été persécutés. Ibrahim était contraint de partir de Soudan, à Tayeb aussi. À ce moment-là, en fait, Ibrahim, il avait commencé à tourner son premier long métrage de fiction, Crocodile, qu'on voit dans le film, qu'il retrouve le scénario. Et j'ai lu le scénario et je pense que c'est un chef-d'œuvre, ça aurait été un chef-d'œuvre. Donc mon film, il parle aussi de ces images qui n'ont pas pu exister, en fait.
Des films fantômes, voilà. Presque.
Et vous, Souheb Guessem El Bahri, vous vous sentez un peu orphelin de cette génération ? Parce que vous avez grandi dans le Soudan des années 90, donc culturellement et plus spécifiquement cinématographiquement. À quoi ressemblait le paysage ?
C'était un désert culturel total. Même les livres, ils n'étaient pas accessibles. Il fallait traverser toute la ville pour trouver un livre. Donc, et au niveau de cinéma, rien, zéro, vraiment. Donc, moi, personnellement, ma culture cinématographique a commencé beaucoup plus tard. C'était à travers les livres et la littérature que je m'instruisais. Mais aujourd'hui, on se considère comme... Je crois pas trop à la notion de la génération. Pour moi, je me sens plus proche quelquefois d'eux et de leurs convictions, de leur radicalité aussi, de leur choix artistique. Et de leur façon de choisir les chemins les plus difficiles, mais de refuser de faire des compromis, en fait, avec les pouvoirs et tout ça. Quelquefois plus proche que des gens de ma génération. Donc,
mais alors, vous avez découvert le cinéma au Soudan ou non, puisque vous dites que c'était pas possible. Du coup, où est-ce que vous avez découvert le cinéma et vous vous êtes dit que vous alliez en faire votre vie?
Au Soudan, non, j'ai découvert... Quand j'étais avant le coup d'État, j'allais de temps en temps dans des projections avec mes parents, notamment dans le centre culturel soviétique qui était à l'époque et montrait des films. Mais c'est des souvenirs très vagues d'images, voilà. Mais au Soudan, j'ai pas découvert le cinéma, j'ai découvert un désir de voir des films. Avec toute cette domination des médias et de la télé, il y avait une seule chaîne nationale au Soudan dans les années 90, complètement dominée par les images de présidents et de l'armée, et de la guerre et tout. Et il y avait une seule émission qui avait un peu échappé à ça. Il passait le jeudi soir, il s'appelait Cinéma. C'est un ami de ces quatre-là qui résistait pour faire vivre cette émission. Mais à chaque fois, cette émission était poussée tard, tard le soir, encore plus tard. Et moi, j'étais enfant, donc... Je l'attendais chaque semaine, jeudi soir, mais comme il passait vraiment tard, chaque fois il était poussé par un discours de président, et je m'endormais quelquefois avant que l'émission commence, ou quelquefois il y avait les coupures d'électricité qui arrivaient juste après le début du film, et du coup
ça c'est rageant.
Une frustration pour voir des films, en fait. Et je pense que cette frustration m'a servi plus tard. Quand les films c'était accessible.
C'est-à-dire qu'elle vous a donné plus d'appétit, c'est ça ? Elle vous a donné plus d'appétit ?
Oui, tout à fait, tout à fait. Je pense, en arrivant en Égypte et après en France, j'ai commencé à dévorer les films vraiment pour rattraper tout ce retard. Là.
Et alors, comment vous avez pu, parce que vous avez dit au début d'émission que vous aviez pu voir des films d'Ibrahim, mais comment vous êtes du coup tombé sur ces films à lui?
Les films d'Ibrahim, en fait, c'est, j'avais vu un seul film quand j'étais en Égypte, et tout à fait par hasard, il s'appelle Chamon. C'est un film de 11 minutes, mais pour moi, c'est un bijou de cinéma expérimental. Je pense que Deleuze aurait aimé le voir pour, parce que c'est un film qui efface complètement les frontières entre animal et humain. Et j'étais vraiment épaté. Je pensais pas déjà qu'il y a de cinéma soudanais. Et le fait que c'est un cinéma qui vient d'un pays où il n'y a pas vraiment de production cinématographique, mais en même temps, ce cinéaste-là, il est tellement exigeant, il questionne la grammaire de cinéma. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Mais de retrouver leurs films, c'était vraiment quand je les ai rencontrés. Ils avaient des mauvaises copies de... Aujourd'hui, ils ont été restaurés, leurs films, la bonne nouvelle, le happy end de film.
Mais justement, on aura l'occasion d'en reparler, Souhaib Ghazmelbari. Mais par quel miracle ces films ont pu être sauvegardés? Parce que vous dites, alors là, c'est très étonnant, vous dites que tous les films de vos quatre protagonistes mis bout à bout font en gros 3 heures.
Oui.
Donc c'est des petits courts-métrages?
Court-métrage et moyen-métrage d'Ibrahim Sheddad de 40 minutes, qui s'appelle Hunting Party. Et ça, c'est son film de diplôme. Donc, lui, il était bien conservé en Allemagne de l'Est. En fait, le miracle, c'est où? Ils ont gardé leurs films chez eux, mais certains, ils ont été perdus, comme le film de Suleiman Mohamed Ibrahim, Africa. Mais avec le film, quand on a, avec mon film en fait, quand on a lancé ce projet-là, on a pris des contacts avec des amis à nous et finalement le chemin nous a amené jusqu'à l'Arsenal, qui est un institut qui en Allemagne qui s'occupe de l'archive et où ils ont aidé pour retrouver des copies, des négatifs de leurs films et certains de les histoires, ils méritent comment ces copies elles ont été retrouvées, elles méritent un film à part. Par exemple, un film de Ibrahim Sheddad, il a été retrouvé dans un laboratoire en Angleterre qui avait récupéré des stocks d'un autre laboratoire qui a fermé parce qu'il leur devait de l'argent. Et,
c'était une enquête policière quasiment, non?
Oui, voilà. Et aujourd'hui, heureusement, leurs films ils sont restaurés, ils sont accessibles et en bon état.
Ce qui est extraordinaire quand on voit ces quatre personnages, hein, Ibrahim, Manar, Souleymane et Al-Tayeb, c'est que ce sont des hommes âgés qui ont connu, hein, dont la vie a été quand même difficile. Ils ont connu la persécution, l'exil. Ils sont rentrés dans leur pays avec beaucoup d'espoir. Et bon, cet espoir n'a pas tout à fait été exaucé. Et en même temps, ce qui étonne chez eux, c'est leur humour. Enfin, même leur salle de cinéma s'appelle La Révolution. Déjà tout un programme. C'est ça qui les... Est-ce que vous arrivez à comprendre ce qui les a tenus pendant toutes ces années? C'est l'humour, c'est l'amitié.
L'amitié, l'humour, intelligent, leur sarcasme. Pour moi, c'est des philosophes, en fait.
Ils sont très humanistes. Ils ont foi en l'homme. Enfin, l'homme avec un grand H.
Oui. Et ils ont l'élégance aussi, leur façon de soigner les blessures, en fait. Je pense que ça, leur amitié leur a beaucoup aidé.
Ah, ils sont toujours en bisbille, en fait. Hein. Ils sont toujours un peu en train de se chercher.
Très tendres ensemble, mais provocateurs. Et je pense que c'est aussi une thérapie de groupe.
C'est ça qui vous a touché
chez eux. Et qui m'a soigné aussi de ma déception, de mon projet qui n'a pas marché au Soudan.
De votre fiction. Ouais. Vous pourriez faire une chose pareille, de vous lancer dans un projet comme ça, parce qu'on les voit bien, ils n'ont pas de moyens, ils déploient une énergie pharaonique, alors que voilà, souvent ça ne fonctionne pas, la projection ne peut pas se faire, il y a une panne d'électricité, il y a le muezzin qui empêche de projeter le film. C'est quand même des gens qui ont la force chevillée.
Oui, mais je pense aussi conscience aussi. C'est... Quelquefois, on a discuté, mais sur le pourquoi ils font ça, en fait. Et je pense qu'ils ont une sorte de sagesse. C'est le chemin aussi qui compte, c'est le parcours, quelquefois. Et c'est une sorte de résistance parce que tout le pouvoir, tout ce qui les entoure, voudrait qu'elle soit immobile. Et du coup, ils résistent en étant en mouvement toujours. Et ils s'efforcent même quelquefois, en fait, d'avoir de l'espoir, de le provoquer même, pour être en mouvement. Et ils savent que quelquefois, les victoires, elles sont tellement petites, les actions, elles sont tellement petites. Mais il y a quand même une satisfaction symbolique aussi, qu'on marque quelque chose, en fait, qu'on n'arrête pas. Donc, bien sûr, quand ils se sont attaqués à ce projet d'ouvrir le cinéma, c'était la troisième tentative, peut-être. Et ils étaient conscients aussi du risque. Mais soudainement, cet espace de liberté à ciel ouvert du cinéma, quand ils étaient dedans, quand c'est devenu l'air-espace, comme une espèce de rêve, de grand rêve comme ça.
C'est presque une utopie voilà. Pour eux. Et en fait, ce qui est touchant dans votre film, je trouve, Souheib Ghazmelbari, c'est que on comprend en filigrane qu'ils ont été des militants politiques. On comprend qu'ils n'ont pas été persécutés seulement parce qu'ils étaient cinéastes. C'est pas trop dit. Ça affleure par moment dans le film. Et on a l'impression qu'en fait, ils ont un peu abdiqué sur leur... ils ont 70-80 ans, donc c'est plus des militants politiques. Mais que justement, leur militantisme politique, maintenant, il passe par le cinéma. Et c'est une très belle image que finalement... de montrer, que votre film montre que le cinéma est politique au sens premier de la police.
Oui, bien sûr.
C'est-à-dire de la chose collective.
Oui, bien sûr. Moi, de toute façon, je voulais raconter, je voulais que tout soit vu par, à travers eux. Je ne voulais pas faire un tract politique en fait, sur la situation du Soudan, parce que si on fait un film, on doit aborder tous les sujets politiques au Soudan, on fera un film extrêmement tragique, je pense. Et je voulais toujours en fait montrer leur façon aussi de gérer leurs déceptions et leurs espoirs aussi politiques, mais à travers leur délicatesse aussi. Je voulais rester fidèle à leur élégance aussi.
Alors, depuis que vous avez tourné ce film, bon, évidemment, vous avez eu des prix à Berlin, et puis depuis, les choses se sont accélérées au Soudan. Omar al-Bashir a été chassé du pouvoir. Actuellement, il y a deux mandats d'arrêt contre lui. Il va être jugé. Donc, la situation est en train de bouger. Est-ce que maintenant, le cinéma... Enfin, est-ce que ça bouge aussi pour la réalité du cinéma au Soudan?
Pour le cinéma, ce qui bouge pour l'instant, c'est que le soif des gens pour le cinéma, pour voir des films, c'est en train d'agrandir. Il y a des projections dans les quartier.
Donc il n'y a plus de couvre-feu.
Donc il y a un vrai soif pour le cinéma au Soudan. Mais pour l'instant, ça reste aussi des initiatives individuelles ou associatives et tout ça. Je pense que le Soudan, maintenant, il est dans une phase où il y a d'autres priorités. Il y a besoin d'une justice transitionnelle pour tous les crimes qui ont été commis, les crimes contre l'humanité qui ont été commis par le régime. Une économie qui est complètement en ruine, un pays vraiment endetté, l'agriculture, la santé, tout ça. Et donc, je pense que ça passe devant. Pour moi aussi, je pense que ce serait indécent même de demander maintenant un soutien
à l'État. En termes de politique publique, c'est ça que vous voulez dire?
Mais ce qu'ils pensent, c'est que l'espace de liberté, il est en train de s'élargir. Et donc, le désir de faire les choses touche plus de gens. Et aussi, cette année, il y a eu plusieurs films soudanais qui ont circulé dans les festivals et tout ça.
Il y en a un qui a obtenu l'équivalent de la Caméra d'Or, enfin, le prix du meilleur premier film à Venise, c'est oui. You Will Die at 20.
Oui. Et aussi, il y a un film, Khartoum Offside, de mon ami Marwa Zayn. Et avant nous, il y avait un autre, Hadjouj Kouka.
Donc il y a une effervescence, une petite effervescence. Du
oui,
coup,
bien aussi. Sûr, bien sûr, il y a une effervescence.
Et vous pensez que le cinéma, même si on est bien conscient des enjeux que vous le disiez, il a quand même son rôle à tenir dans le processus révolutionnaire?
Oui, bien sûr. Je pense que, pour moi, je pense que les films, ils peuvent donner des exemples en fait d'intégrité, de résistance qui empêche en fait le retour en arrière. Peut-être le cinéma, il ne peut pas provoquer une révolution, mais il peut jouer un rôle important à changer des individus en fait.
Parce que quand vous, quand vous parliez d'un désert, hein, vous parliez du Soudan des années 90, un désert culturel et cinématographique, c'est quand même pas rien de grandir et de vivre et de devenir adulte et d'être adulte dans un pays où on n'a pas d'image de soi-même.
Oui, bien sûr, mais ça crée le désir. Moi, je pense, j'insiste toujours sur le désir, qu'il y a un aspect quand même qui nous rend, je sais pas, plus résistant.
Et voilà. Là, il y a des choses qui se passent, comme le disait Sophie.
Oui.
Il y a une petite, on va pas parler de nouvelle vague, hein, parce que ce serait un trop gros mot, mais
non, pas encore. Je pense pour l'instant, on doit être sous mouvement de cinéma. C'est pas encore un mouvement de cinéma, en fait. Cette année, c'est des films qui ont été faits avec des initiatives individuelles, dans des conditions complètement différentes l'un de l'autre. Et je pense que pour l'instant, quand on pose la question s'il y a un cinéma soudanais, non, pas encore. Il faut rester encore modeste.
Mais vous avez déjà de nouveaux projets, Soueb Ghassem El Barry?
Oui, j'ai un projet de fiction que j'espère faire.
Sans doute peut-être plus facilement faisable que celui que vous aviez auquel vous aviez dû renoncer avant de faire ce documentaire?
Non, au niveau du contenu, il est plus compliqué, mais au niveau de le faire, j'espère que cette fois, qu'il y a des vraies libertés. Qui ne sont pas conditionnés par les relations avec les ministres ou le gouvernement et tout ça. Donc on va tester cet espace de liberté maintenant.
Merci beaucoup, Soueb Ghassem El Barry.
Merci.
Et je rappelle le titre de votre film, de votre très très beau documentaire. C'est un documentaire qui apprend beaucoup, mais qui est aussi très touchant, émouvant, et puis d'une grande finesse, hein, sur voilà, ce patrimoine perdu du cinéma soudanais. Pourquoi il s'appelle Talking About Trees, votre film ? Je crois que ça vient d'un poème de Brecht, hein, c'est ça?
Oui, c'est une citation de Brecht. Donc, que donc s'étend ou parler des arbres est presque un crime, puisque se faire silence sur tant de forfaits. Je pense la traduction en français, parce que comme je ne l'ai pas lu en français, elle m'est un peu difficile. Et donc, en fait, j'ai trouvé que ça ressemble beaucoup aux personnages, ce questionnement, parce qu'ils ont ce questionnement, ils ont vécu toujours avec ce questionnement. Ils ont toujours été mis devant des choix très difficiles, dans un temps de fascisme. Est-ce qu'un artiste doit faire des compromis pour produire plus d'art, plus d'œuvres, ou là, il doit choisir les chemins ardents, quitte à renoncer en partie de son art, de son désir d'art. Et où je pense qu'ils ont fait le deuxième choix. Et comme le film, en fait, il essaie pas seulement de montrer ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils sont en train de faire, mais ce qu'ils ont voulu faire. Et cet amour, ce talent empêché, en fait, le désir, demeuré désir, comme dit René Char. Donc, je trouvais ce titre-là.
Très beau.
Qui est dit par un des personnages.
Voilà, c'est un texte qui a été écrit, je crois, par Brecht en 1939.
En exil.
Voilà, en exil. Et donc, il répond très bien à votre beau film. Merci beaucoup, Soueb Ghassem El Barry.
Merci.
Et tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Sophie Torlotin.
Et Elisabeth Le Quéré, à la réalisation, Fanny Renard.
Toute l'équipe vous souhaite une bonne fin d'après-midi et rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même cinéma.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde.